Répliquez-vous l'émission des ressources humaines sur Liberté FM où l'on parle de l'emploi, du management, mais aussi et surtout de l'humain. Je suis avec Christophe Rougeat, consultant. Bonjour Christophe.
Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous.
Alors Christophe, aujourd'hui on va s'intéresser à un domaine particulier, la fonction publique hospitalière. Et on va également parler de reconversion comme on l'a déjà fait dans les deux émissions précédentes. Alors pourquoi est-ce que c'est devenu un sujet majeur justement dans la fonction publique hospitalière ?
Bien, tout simplement, comme tu le sais, la fonction publique hospitalière va accumuler plusieurs facteurs de pénibilité, des contraintes physiques lourdes, une vraie charge émotionnelle dans les emplois, un travail posté, une exposition au risque. Il y a beaucoup d'agents de la fonction publique hospitalière qui tiennent des années et puis qui arrivent à un moment donné à un point de rupture. La reconversion devient alors le seul levier de prévention et pas seulement une sortie de secours.
Alors on entend souvent que se reconvertir à l'hôpital, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, on pense que c'est compliqué, mais c'est très encadré finalement, et c'est absolument pas bloqué, au contraire. Okay. La fonction publique hospitalière a mis en place une palette de dispositifs statutaires et de formation, avec des règles très précises. Le vrai enjeu, c'est de connaître le bon dispositif et de l'utiliser au bon moment.
Et alors, à qui s'adressent ces dispositifs ?
Alors, aux agents titulaires de cette fonction publique hospitalière, en priorité, mais aussi aux agents contractuels qui peuvent bénéficier des protocoles pour certains dispositifs. Le statut va conditionner l'accès, la durée et le niveau de sécurisation.
Et quelle est la philosophie globale de la reconversion dans la fonction publique hospitalière ?
Alors, l'objectif, c'est de maintenir l'agent dans l'emploi le plus longtemps possible, dans des conditions compatibles avec sa santé et ses compétences, tout en sécurisant juridiquement et financièrement les parcours.
Ok. Et qui pilote et finance ces dispositifs ?
Alors, un acteur central qui est la NFH, qui est l'OPCO en fait de la fonction publique hospitalière, qui va financer les formations, les bilans de compétences, les études promotionnelles et va accompagner les établissements.
Ok. Et par quoi un agent devrait-il commencer concrètement ?
Bah, par un bilan de compétences.
Bah, voilà.
Comme à chaque fois, c'est la base de la base. Ça permet vraiment d'analyser les compétences transférables, les contraintes médicales éventuelles, les contraintes familiales de santé, de mobilité géographique, les aspirations et les pistes réalistes qui peuvent s'offrir à la personne. Et c'est un dispositif qui est complètement finançable par la NFH grâce à des conventions qu'on a avec eux. Souvent, à la demande du salarié auprès de son employeur, on allant rencontrer les personnes en charge de la formation au sein de l'établissement.
D'accord. Et quelle est la durée et le cadre d'un bilan de compétences dans la fonction publique hospitalière, justement.
Alors classiquement, comme sur un bilan de compétences traditionnel, on est sur 24 heures maximum d'accompagnement réparties sur plusieurs semaines. Donc c'est des séances qui durent 3 heures en général, durant lesquelles on va échanger avec la personne. On va lui proposer des outils, enfin des exercices à réaliser en interséance pour apprendre à se connaître et poser certaines choses. Des outils aussi pour découvrir des univers métiers, des professions, lui faire faire des enquêtes métiers, lui proposer des immersions professionnelles, etc. qui peuvent être mises en place, que ce soit au sein de la structure, mais aussi en dehors. Il n'est pas rare que des personnes qu'on accompagne aujourd'hui fassent des stages inter-services pour découvrir un autre métier de la fonction publique hospitalière sans avoir besoin de sortir de ce jargon, de cet environnement, pardon. Et voilà, donc on va, pendant les différentes phases réglementaires du bilan, analyser la demande, faire une phase d'investigation et puis apporter une conclusion au projet.
Très bien. Alors, parlons maintenant du congé de formation professionnelle, autrement dit CFP. Ça consiste en quoi ?
Alors, c'est un peu comme le PTP qu'on a vu la semaine dernière, le projet de transition professionnelle dans le secteur privé. Là, en fait, c'est un congé de formation professionnelle qui, une fois que le projet a été construit par l'agent, va lui permettre de suivre une formation longue en vue d'une reconversion. C'est accessible après 3 ans de service effectif dans la fonction publique.
D'accord.
Et ça peut durer jusqu'à 3 ans sur l'ensemble de la carrière, 3 années qui soient consécutives ou non.
Et quelle est la durée maximale du CFP ?
Alors, je te dis, c'est 3 ans maximum, sur que ce soit consécutif ou non. Donc, si vous avez une formation, par exemple, qui dure sur une année, mais qui a une semaine de formation seulement par mois, on va comptabiliser le temps effectif en formation.
Et qui prend en charge la rémunération pendant cette période ?
La rémunération, en fait, va dépendre du statut de la personne.
D'accord.
Si c'est un agent de catégorie C, la première année, il va toucher 100% de sa rémunération. Et les études peuvent aller jusqu'à 2 années. Et donc, la deuxième année, il touchera 85%. Si on est sur un agent de catégorie B ou de catégorie A, à ce moment-là, on est sur 85% de la rémunération dès la première année du traitement brut en soi, pendant les 12 mois. Okay. Et l'année suivante, malheureusement, il n'y a plus rien.
Et tous les CPF sont-ils acceptés ?
Non, les dossiers sont sélectionnés par rapport à différents critères précis, la cohérence du projet, les débouchés, le coût de la formation, les priorités de l'établissement, etc. De l'importance d'un projet étayé par un bilan de compétences.
Ok, alors tu parlais des études promotionnelles, c'est quoi exactement ?
Alors, les études promotionnelles, c'est quand une personne souhaite évoluer dans son établissement vers une nouvelle profession qui fait suite à la profession initiale.
D'accord.
Donc, c'est un diplôme du secteur sanitaire ou médico-social qui va être recherché. Mmh. Par exemple, une DE, un cadre de santé, devenir manipulateur radio, etc., en restant agent hospitalier.
D'accord. Et quelles sont les conditions d'accès aux études promotionnelles ? Et
être agent titulaire, réussir les épreuves de sélection et obtenir l'accord de l'établissement. Très souvent, pour pouvoir accéder à ces études promotionnelles, il faut que ça coïncide avec le plan de développement des compétences mis en place par l'établissement, parce qu'il a des besoins en termes de compétences et va former des salariés en interne pour les amener vers ces métiers nécessaires.
D'accord. Et quelle est la durée de ces études ?
Ça va dépendre du diplôme. Ça peut être 3 ans pour un infirmier, 1 an pour un cadre de santé, après le diplôme initial.
Et comment est rémunéré l'agent pendant les études promotionnelles ?
Le traitement est maintenu, parfois avec un engagement de service d'établissement pendant une durée équivalente à la formation une fois que celle-ci est réalisée.
D'accord. Quand la reconversion est liée à un problème de santé, comment ça se passe ?
Bien là, on va entrer dans ce qu'on appelle un reclassement professionnel.
D'accord.
L'administration doit rechercher un poste qui va être compatible avec l'état de santé de l'agent, avec possibilité de formation et d'adaptation du poste.
Et le reclassement est limité dans le temps ?
Oui, il peut inclure des périodes d'adaptation, mais doit rester proportionné et réaliste surtout.
D'accord. Alors, avant de voir la mise à disposition, on va faire une pause musicale. Aujourd'hui, tu as choisi « Tout a changé ».
Oui, on parle de reconversion.
Bah oui.
Mais rien n'a changé en fait.
C'est Elena qui chante.
Je suis sans fort, sans artifice. J'ai rien enfoui. Tu devines quand je suis bien ou bien triste. J'ai pas fait l'actrice. J'éclate de rire sans retenir, sans manière. C'est comme ça qu'on m'a faite. Pas d'ego, pas de paillettes. On m'a appris à être honnête. Parfois les étoiles sont des comètes. Je veux bien être une étoile, si c'est pour allumer la nuit. Elle est si grande cette salle, elle est si petite cette fille. Tout a changé, rien n'a changé. C'est toujours la même fille que tu connais, que tu connais. Dis-moi que t'as reconnu mourir, même si tout a changé, rien n'a changé. C'est toujours la même fille que tu connais, que tu connais. Dis-moi que t'as reconnu mourir. Appelle-moi quand tu pourras. Mon numéro n'a pas changé. On ira au café d'en bas, on se racontera nos soirées. Tu me parleras de ton mec, je veux tous les détails de l'histoire. Enfin si t'es toujours avec, quand on arrivera à se revoir. Dis-moi si tu me trouves un peu bizarre. Si t'arrives plus à savoir si je suis bien ou triste. Moi je ne veux pas que nos vies nous séparent. J'ai pris le premier train car je voulais te dire. Tout a changé, rien n'a changé. C'est toujours la même fille que tu connais, que tu connais. Dis-moi que t'as reconnu mourir, même si tout a changé, rien n'a changé.
Vous écoutez l'émission Répliquez-vous sur Liberté FM. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à la reconversion dans la fonction publique hospitalière. Dans la première partie, nous avons notamment parlé du congé de formation professionnelle. Nous voyons maintenant le dispositif qui s'intitule la mise à disposition. Christophe, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ?
Oui, la mise à disposition va permettre à un agent titulaire d'exercer dans une autre structure tout en restant rattaché à son établissement d'origine.
D'accord. Et quelle est la durée d'une mise à disposition ?
Alors, c'est une durée qui est temporaire, puisqu'elle est généralement d'un an renouvelable, selon les conventions qui ont été signées entre les différentes structures de la fonction publique.
Et alors, le détachement, c'est l'équivalent ou c'est un peu différent ?
Alors oui, ça permet là du coup d'occuper un emploi dans un autre corps ou une autre fonction publique tout en conservant ses droits à l'avancement et à la retraite.
D'accord.
Et en général, ça a une durée d'un an à cinq ans renouvelable et ça peut déboucher sur l'intégration définitive dans la nouvelle structure.
D'accord. Et la durée du détachement alors ?
Mais je te disais en général entre un an et cinq ans.
D'accord. Et la disponibilité ?
Alors la disponibilité va permettre de suspendre la carrière sans aucune rémunération pour convenance personnelle, ce qui permet d'aller créer une entreprise par exemple ou de se reconvertir dans un autre milieu tout en gardant une sécurité puisque la personne va pouvoir revenir à terme dans son emploi d'origine.
Est-ce qu'il y a une durée maximale pour une disponibilité ?
Alors c'est variable selon les motifs mais souvent c'est jusqu'à 3 ans qui peut être renouvelable dans certaines limites.
Et on peut réintégrer facilement après une disponibilité ?
Tout à fait. Mais pas toujours de manière immédiate. Donc c'est un dispositif qu'il faut manier avec prudence malgré tout.
D'accord. Alors est-ce qu'il existe des solutions plus progressives ?
Oui, on peut très bien demander à avoir un temps partiel, notamment thérapeutique s'il y a des problématiques de santé. Ça peut être un sas de transition pour, qui combiné à de la formation peut amener doucement vers un nouveau métier.
Les agents contractuels, eux, ont-ils des options ?
Oui, tout à fait. Ils peuvent bénéficier de bilans de compétences. Ils peuvent se former aussi avec des financements à NFH. Ils bénéficient des parcours de professionnalisation qui sont proposés par l'établissement. Ils ont moins de leviers statutaires, mais il y a quand même des solutions qui existent.
Ok. Quand on a envie de changer, quand on a envie de se reconvertir, qu'est-ce qui fait qu'un projet est accepté, tout dispositif confondu ?
Toujours la viabilité du projet. Son réalisme, ses débouchés, l'adéquation entre les compétences, la santé, le statut de la personne. Tout ça, c'est des éléments qui sont super importants.
Alors, on va reposer la même question que dans les émissions précédentes. Quelle est l'erreur la plus fréquente ?
Mais attendre que les choses évoluent, souvent de pire en mal, quand on ne se sent pas bien, et que l'inaptitude ou l'épuisement total arrive. Plus on va agir tôt, plus les options sont nombreuses.
Et alors réplique dans tout ça, comment est-ce qu'elle peut aider ses agents ?
Alors on intervient sur les bilans de compétences, on travaille beaucoup avec l'hôpital de Périgueux notamment. La structuration du projet et l'aide à la décision en lien avec les dispositifs ANFH et les services formation de l'hôpital, qui sont des vrais supports pour accompagner les agents.
D'accord, très bien. Donc ce message s'adresse aux fonctionnaires ou aux contractuels de la fonction publique hospitalière. Si vous avez des questions et voilà, si vous envisagez une telle reconversion, eh bien n'hésitez pas à vous adresser à Réplique. On va rappeler les coordonnées.
Bien effectivement, à l'hôpital, la reconversion, c'est pas une rupture, c'est souvent une continuité professionnelle qui est autre. Pour nous contacter, on peut nous joindre au 05 64 13 98 00 par téléphone, par mail via contact@replique.com et par internet www.replique.com.
Parfait, merci beaucoup Christophe.
Merci à toutes et à tous, à bientôt.
À très bientôt, de même.